Le Garou. Première partie.
Peu de temps après la mort de ma mère, laquelle, ainsi que vous le savez, j'ai tué de mes propres mains, mon père, Stephen, fils d'Henri le Grand, me convoqua dans son bureau de l'aile nord du palais. C'était une pièce minuscule et glaciale. Je me rappelle le vent gémissant dans les meurtrières. Je me rappelle les hautes étagères sévères ployant sous les livres. Des livres qui valaient une fortune, mais que personne ne lisait jamais. Pas lui, tout du moins. Je me rappelle le col noir qu'il portait en signe de deuil. Le même col noir que le mien. Tous les hommes de Gilead en portaient un, à moins que ce soit un brassard. Les femmes se coiffaient d'une résille noire. Il en serait ainsi pendant les 6 mois suivant les funérailles de Gabriel Deschênes. Je portais le poing à mon front pour le saluer. Il ne leva pas les yeux des papiers étalés devant lui, mais je savais qu'il m'avait vu. Mon père voyait tout, et il voyait très bien. J'attendis. Il apposa sa signature sur plusieurs documents tandis que le vent sifflait et que les corbeaux croassaient dans la cour. La cheminée était vide. Même par temps glacial, il était rare qu'il la fasse allumer. Enfin, il leva la tête. « Comment va Cort, Roland ? Comment va ton instructeur de jadis ? Tu dois le savoir. » Vu qu'on m'a fait comprendre que tu passais le plus clair de ton temps dans sa hutte à le nourrir et à le soigner. Certains jours, il lui arrive de me reconnaître, mais cela devient rare. Il y voit encore un peu d'un œil, l'autre... Je n'avais pas besoin de finir. L'autre avait disparu. C'était David, mon faucon, qui l'avait crevé au cours de mon épreuve de passage à l'âge adulte. En représailles, Cort avait ôté la vie à David, mais il n'avait plus jamais tué ensuite. Je sais ce qui est arrivé à l'autre. Ainsi, tu le nourris. Ainsi fait, père. Tu le laves quand il se souille. Je restais planté devant son bureau, aussi contrit qu'un écolier convoqué par le directeur. Et tel était bien mon sentiment. Mais combien d'écoliers contrits ont tué leur propre mère? Réponds-moi, Roland. Je suis ton digne ainsi que ton père, et j'exige une réponse. Quelquefois, répondis-je. Ce n'était pas vraiment un mensonge. Tantôt je changeais Cort 3 ou 4 fois par jour, tantôt quand il se sentait mieux, une fois seulement. Voire pas du tout. Il arrivait jusqu'aux latrines si je l'y aidais. Et s'il se rappelait qu'il en avait besoin. Il n'a pas d'amis blanches pour s'occuper de lui. Je les ai chassés, dis-je. Il me fixa d'un air franchement curieux. Je cherchais une trace de mépris sur son visage. Une partie de moi-même aurait souhaité en trouver, mais ce fut sans succès. T'ai-je élevé pour que tu deviennes une amie et prennes soin d'un vieillard sénile? Je sentis ma colère s'embraser. Cort avait enseigné les traditions de l'Elde et la voix du pistolet à une piche de jeunes hommes. Quand il les jugeait indignes de ce savoir, il les terrassait et les envoyait à l'ouest, armés de leurs seules astuces. Revenu en Crécy et en d'autres lieux encore plus reculés des royaumes anarchiques, nombre d'entre eux avaient rejoint Farson, l'homme de bien, lequel était prêt à renverser tout ce que représentait la lignée de mon père. Lui les avait armés. Irais-tu jusqu'à le jeter aux ordures, père? Est-ce la récompense que lui vaudront toutes ces années de service? Et ensuite, à qui le tour? À Vanet? « Jamais de la vie, je ne ferai cela, tu le sais. »« Mais son temps est passé, Roland, et tu le sais aussi. »« Et ce n'est pas par amour que tu le soignes, tu le sais également. »« C'est par respect que je le fais. Si ce n'était que par respect, tu lui rendrais visite. Tu lui ferais la lecture. Car tu es doué pour cela. Ta mère le disait toujours, et sur ce point elle disait vrai. Mais tu n'irais pas jusqu'à lui torcher le cul et lui changer ses draps. En agissant ainsi, tu te châties pour la mort de ta mère, alors que tu n'en es nullement responsable. Une partie de moi connaissait cette vérité. Une autre refusait de le croire. Le verdict rendu était des plus simples. Gabrielle Deschênes, d'Arthène, a péri alors qu'elle était possédée par un démon qui lui troublait l'esprit. C'était ce que l'on disait toujours lorsqu'une personne de sang noble mettait fin à ses jours. Ce verdict était accepté par tous, y compris ceux qui avaient rejoint le camp de Farsone, publiquement ou en secret. Car tous avaient compris. Les dieux savent comment, vu que ni mes amis ni moi n'avions parlé, qu'elle était devenue la maîtresse de Martin Largape, sorcier personnel et proche conseiller de mon père, et que ce dernier était parti pour l'Ouest, seul. Entends-moi bien, Roland. Je n'ignore pas que tu t'es senti trahi par madame, ta mère. Moi aussi. Ni qu'une partie de toi l'a haïssé. Il en va de même pour moi. Mais nous l'aimions également, toi comme moi, et nous l'aimons encore. Le jouet que tu as rapporté de Mérisse t'a empoisonné et la sorcière t'a berné. Ni l'un ni l'autre de ces malheurs n'aurait suffi. Mais la conjonction de la boule rose et de la sorcière s'y fait. Réa, je sentis monter les larmes et je les refoulai. Il n'était pas question que je pleure devant mon père, plus jamais. Réa de Kos, achevai-je. S'y fait, la mégère au cœur noir. C'est elle qui a tué ta mère, Roland. Elle a fait de toi un pistolet, puis elle a pressé la détente. Je ne dis rien. Il dut percevoir la détresse qui était la mienne, car il se remit à remuer des papiers et à signer des documents. Puis il leva la tête une nouvelle fois. Les amis devront prendre soin de Corte pour un temps. Je t'envoie à Debaria avec l'un de tes camis. Hein ? À Sérénité ? Il rit. Est-ce le nom de la retraite où ta mère a séjourné ?
Oui.
Non, sûrement pas. Sérénité, quelle blague ! Ces femmes-là sont des amies noires. Quiconque franchit leur sainte porte périt écorché vif. La plupart des sœurs qui y demeurent préfèrent le mandrin à l'homme. Je n'entendais rien à son propos. Rappelez-vous que j'étais tout jeune et encore innocent à bien des égards, en dépit de ce que j'avais enduré. Je ne suis pas sûr d'être prêt pour une nouvelle mission, père, surtout s'il s'agit d'une quête. Il me fixa d'un œil froid. J'en serai seul juge. Et puis... il ne s'agit pas vraiment d'une mission, encore moins d'une quête. Rien à voir avec ce que tu as subi à Mérisse. Peut-être y aura-t-il du danger. Peut-être même auras-tu besoin de tirer. Mais, en fin de compte, ce n'est qu'un boulot comme les autres. S'il faut le faire, c'est en partie pour que les sceptiques comprennent que le blanc est encore fort et pur. Mais surtout parce que ce mal ne doit pas perdurer davantage. Et puis, ainsi que je l'ai déjà dit, tu ne partiras pas seul.
Qui m'accompagnera ? Cuthbert ou Alain ?
Ni l'un ni l'autre. J'ai du travail pour le plaisantin et pour Pied-Lourd. c'est Jamie de Curie qui ira avec toi. Je réfléchis à cette idée et conclus que je serais ravi de chevaucher avec Jamie Main Rouge. Mais j'aurais quand même préféré Alain au Cuthbert, ce que mon père ne pouvait ignorer. Vas-tu obéir sans discuter ou bien continuer à m'agacer en ce jour où j'ai beaucoup à faire ? Je partirai, dis-je. En vérité, je n'étais pas mécontent de fuir ce palais aux salles peuplées d'ombres et d'intrigues chuchotées, où l'on sentait de plus en plus que les ténèbres et l'anarchie approchaient et que rien ne les arrêterait. Le monde continuerait sa course, mais celle de Gilead arrivait à son terme. Cette belle bulle étincelante ne tarderait pas à éclater. Bien. Tu es un bon fils, Roland. Peut-être ne te l'ai-je jamais dit, mais c'est la vérité. Je n'ai rien à te reprocher. Rien. Je baissai la tête, luttant pour ne pas perdre contenance. Une fois conclue cette rencontre, je m'isolerai pour donner libre cours à mes larmes, mais pas tout de suite. Pas tant que je me tiendrai devant lui. À 10 ou 12 lieues du hall des femmes, Sérénité, ou quelque nom qu'elle lui donne, se trouve la ville de Debaria, proprement dite, à la lisière du désert alcalin. Debaria et la Sérénité, ça fait deux. Ce n'est qu'un relais ferroviaire qui empeste le cuir, à partir duquel on expédie le sel et le bétail au sud, à l'est et au nord. Bref, partout sauf là où ce salopard de Farson ourdit ses complots. Les troupeaux se font rares de nos jours. Et Debaria finira sans nul doute par péricliter, à l'instar de tant de villes de l'entre-deux-mondes. Mais pour l'instant, cela reste une cité trépidante, pleine de saloons, de bordels, de joueurs et de truands. Même si on a peine à le croire, on y trouve aussi de braves gens. Parmi eux figure Hugh Peavy, le shérif. C'est à lui que vous vous présenterez, de Curie et toi. Montrez-lui vos pistolets, ainsi que le sigle que je vous donnerai. As-tu bien compris tout ce que je t'ai dit jusqu'ici ? Oui, père, mais que peut-il survenir dans une telle ville qui nécessite l'intervention de pistoleros ? Je me permis un sourire, chose rare chez moi depuis la mort de ma mère. Même de bébés pistoleros comme nous. À en croire les rapports qui me sont parvenus. Il saisit une liasse de papier pour l'agiter devant moi. Il y a un garou qui sévit par là-bas. J'ai des doutes sur la réalité du phénomène, mais aucun sur la terreur qui s'est emparée des habitants. J'ignore de quoi tu parles, avouai-je. Il doit s'agir d'un change-forme, comme dans les vieilles légendes. Va voir Vanet quand tu sortiras d'ici. Il s'est employé à rassembler les rapports sur le sujet. Entendu. Accomplis la tâche que je te confie. Déniche le cinglé qui se balade vêtu de peau de bête. Sans doute la menace se limite-t-elle à cela. Mais surtout, ne tarde pas. Il se trame des choses bien plus graves. Je tiens à ce que tes camis et toi soyez revenus avant qu'il ne soit trop tard. 2 jours plus tard, Jamie et moi embarquions nos chevaux dans le wagon d'un train spécial affrété à notre seule intention. Jadis, la ligne de l'ouest s'enfonçait d'un bon millier de roues dans le désert de Moen. Mais avant la chute de Gilead, elle permettait à peine de gagner Debaria. Inondations et glissements de terrain avaient ravagé certaines portions de voies ferrées. D'autres étaient tombées sous la coupe des écumeurs et des pirates de terre, non désignant des bandes de hors-la-loi dans cette région plongée dans la confusion. Nous avions donné le nom de baronnie extérieure à la partie du monde qui s'était mise au service de John Farson. Ce dernier, après tout, n'était lui aussi qu'un vulgaire pirate, même s'il était animé de certaines prétentions. Notre train n'était guère plus qu'un jouet à vapeur. Les habitants de Gilead l'appelaient Titeuf et s'esclaffaient en le voyant ahanner sur le pont à l'ouest du palais. Nous serions allés plus vite à cheval, mais Titeuf nous permettait de ménager nos montures. Et les banquettes en velours de notre wagon se dépliaient pour nous fournir des lits, le comble de la sophistication à nos yeux. Jusqu'à ce que nous ayons essayé d'y dormir. Au premier chaos un peu violent, Jamy se retrouva par terre, jeté à bas de sa couche. Là où Cuthbert aurait éclaté de rire et Alain jurait comme un charretier, Jamy Mainrouge se contenta de se ramasser, de se recoucher et de se rendormir. Nous n'avons guère parlé le premier jour. Occupé à contempler le paysage derrière les vitres d'Ictiocol, regardant la verte contrée boisée de Gilead laisser la place à une terre ingrate, parsemée de ranchs et de huttes de cow-boys. Ça et là surgissaient des villes dont les habitants, en grande majorité démutés, nous regardaient passer bouche bée. Quelques-uns portaient une main à leur front, comme pour toucher un troisième œil invisible. C'était un signe d'allégeance à Farson, l'homme de bien. À Gilead, cela leur aurait valu le cachot sur le champ, mais nous étions bien loin de Gilead à présent. J'étais consterné par la rapidité avec laquelle ils avaient changé de camp. Le premier jour, non loin de Besford-sur-Arten, où demeurait une partie de la famille de ma mère, un homme ventru jeta une pierre sur le train. Elle rebondit sur le wagon des chevaux et je les entendis hennir de surprise. L'homme vit que nous le fixions du regard. Un large sourire aux lèvres, il s'empoigna le bas-ventre des deux mains, puis partit en se dandinant.
« Quelqu'un a bien mangé en terre pauvre. »
commenta Jamy tandis que nous regardions balloter ses fesses rebondies. Le lendemain matin, après que le vieux serviteur nous eut servi un petit déjeuner de lait et de porridge, Jamy déclara
« Tu devrais peut-être me dire ce qu'on doit faire. »
« Tu veux bien répondre à une question auparavant ?»« Si tu le peux, naturellement. »
« Bien sûr. »
À en croire mon père, les femmes qui font retraite à des Baria préfèrent le mandrin à l'homme. Sais-tu ce qu'il entend par là ?
Jamy me considéra un moment sans rien dire, comme pour s'assurer que je ne le charriais pas, puis esquissa le plus infime des sourires. Le connaissant, c'était comme s'il riait à s'en tenir les côtes, à se rouler par terre et à hurler comme un perdu. C'était ainsi qu'aurait réagi Cuthbert Allgood.
Ça doit correspondre à ce que les putains des bas quartiers appellent un godemiché. Tu comprends?
Tu dis vrai? Et ces femmes, qu'est-ce qu'elles en font? Elles s'en servent entre elles?
C'est ce que l'on dit. Mais en fait, rien n'est moins sûr. « Tu en sais plus que moi sur les femmes, Roland. Je n'ai encore jamais couché avec une femme. Mais peu importe, cela finira bien par arriver. Dis-moi ce que nous sommes censés faire à des Baria. »
Il paraît qu'un garou terrorise les bonnes gens, et les méchantes gens aussi, sans doute.
« Un homme qui se change en animal ?»
En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais il avait bien résumé la chose. Un vent violent projetait sur le wagon des paquets de poussière corrosive. À l'issue d'une bourrasque plus forte que les autres, le petit train se mit à tanguer. Nos bols vides glissèrent sur la tablette. Nous les avons rattrapés juste à temps. Si nous avions été incapables d'agir ainsi, sans même avoir besoin d'y penser, nous aurions été indignes de porter nos armes. Pourtant, ce n'était pas le pistolet que préférait Jamy. Si on lui avait laissé le choix, et à condition qu'il en ait le temps, il aurait joué de l'arc ou du bas.
« Mon père n'y croit pas, » dis-je, « mais Vanet, si, il... »
À ce moment-là, une secousse nous projeta sur la banquette devant nous. Le vieux serviteur, qui venait récupérer nos bols et nos tasses, dévala l'allée centrale avant de s'écraser sur la porte de sa cuisine. Ses dents jaillirent de sa bouche pour se poser sur son giron, ce qui me fit sursauter. Jamy se précipita à son secours, courant dans l'allée désormais pentue. Comme je le rejoignais, il ramassa les dents et je vis qu'elles étaient en bois peint et maintenues par un astucieux fermoir à peine visible.
« Vous vous sentez bien, Sai ? » demanda-t-il.
Le vieillard se releva non sans mal, reprit ses dents et en combla le trou béant de sa bouche.
« Très bien, mais cette saloperie a encore déraillé. Et cette fois, j'en ai fini avec la ligne de débarras. Je suis marié à une mégère et j'ai bien l'intention de lui survivre. Vous feriez mieux d'aller jeter un coup d'œil à vos chevaux, jeunes gens. Avec un peu de chance, ni l'un ni l'autre ne s'est cassé une patte. »
Les deux chevaux étaient indemnes, mais un peu affolés et impatients de sortir de leur wagon. Nous avons abaissé la rampe pour les faire descendre et les avons attachés à l'attelage du train, et ils sont restés là, la tête basse et les oreilles aplaties pour se protéger du vent qui soufflait de l'ouest, chargé de chaleur et de poussière. Puis nous sommes remontés dans notre compartiment pour rassembler notre guna. Le mécano, un petit homme aux larges épaules et aux jambes arquées, descendit de son engin. Le vieux serviteur sur ses talons. Arrivé à notre niveau, il nous désigna une crête que nous avions déjà repérée.
La route de débarras se trouve là-haut. Vous voyez les panneaux? Vous serez chez les femmes en moins d'une heure, mais prenez pas la peine de leur demander quoi que ce soit, ces salopes, car elles vous donneront rien.
Il baissa la voix.
Elles mangent les hommes, à ce qu'on m'a dit. Et c'est pas une façon de parler, les gars. Elle mange les hommes.
Cette affirmation me semblait moins crédible que la réalité du garou, mais je laissai passer. De toute évidence, le mécano était secoué, et je vis que l'une de ses mains était aussi rouge que celle de Jamy. Mais en ce qui le concernait, ce n'était qu'une brûlure bénigne et éphémère, tandis que la main de Jamy serait encore rouge lorsqu'on le porterait en terre. On aurait dit qu'il l'avait trempé dans le sang.
Peut-être qu'elles vous appelleront et vous feront des promesses. Peut-être même qu'elles vous montreront leur nichon, car elles savent que les jeunes hommes adorent ça. Mais méfiez-vous. Fermez vos oreilles à leurs promesses et vos yeux à leur nichon. Continuez votre route. La ville est à moins d'une heure de cheval. Nous, on aura besoin de renforts pour remettre d'aplomb cette vieille bête. Les rails sont en bon état, je viens de les vérifier. C'est cette putain de poussière qui nous a fait dérailler. Je suppose que vous n'avez pas d'argent pour payer des ouvriers, mais si vous savez écrire, et vu que vous portez une arme, c'est sûrement le cas, vous pouvez leur donner un billet d'ordre ou quelque chose comme ça.
Nous avons de l'argent, le coupai-je, assez pour engager une équipe. À ces mots, le mécano écarquilla les yeux. Sans doute aurait-il été encore plus surpris si je lui avais dit que mon père m'avait confié 20 barrettes d'or que j'avais placées dans une poche secrète de ma veste.
« Et des bœufs. On aura besoin de bœufs, si jamais ils en ont. Ou alors de chevaux.
Nous ferons le nécessaire, » dis-je en enfourchant ma monture. Jamy fixa son arc d'un côté de sa selle, puis fit le tour de son cheval pour glisser son bât dans l'étui que lui avait confectionné son père.
« Ne vous abandonnez pas ici, jeune saille, » insista l'homme. « Nous n'avons ni armes ni chevaux. »
« Nous ne vous oublierons pas, » lui assurai-je. « Restez à bord du train. » Si nous ne trouvons pas d'ouvriers pour vous remettre sur les rails, nous vous enverrons un bucat pour vous conduire en ville.
Un grand merci, et vous approchez pas de ces femmes. Et mange les hommes.
Il faisait très chaud. On a laissé galoper les chevaux un moment car ils avaient envie d'un peu de mouvement après être restés enfermés. Puis on les a remis au pas.
« Vanet, » dit Jamy.
« Pardon ?»«
Avant que le train déraille, tu disais que ton père ne croyait pas à ce garou, mais que Vanet n'était pas du même avis.
D'après lui, quand on a lu les rapports du shérif Peavy, il est difficile de rester sceptique. Rappelle-toi ce qu'il a dit au moins une fois par cours. Quand les faits parlent, le sage les écoute. 23 morts, ça fait une pige de faits. Et pas une seule mort par balle ni couteau, rien que des cadavres déchiquetés. Grognement de Jamy. Deux familles entières ont péri. Deux grandes familles, presque des clans. On a trouvé leur maison détruite, avec des pans de murs couverts de sang. Des cadavres démembrés, des bras et des jambes épars, parfois dévorés en partie. Dans une ferme, le shérif Peavy et son adjoint ont retrouvé la tête du Benjamin fichée sur un poteau, le crâne fracassé et vidé de sa cervelle.
Des témoins ?
Quelques-uns. Un berger parti rattraper des moutons égarés a vu périr son équipier. Il se trouvait au sommet d'une colline. Les deux chiens qui le suivaient ont couru aider leur maître, ce qui leur a valu d'être réduits en pièces. La chose s'est ensuite tournée vers la colline. Mais les moutons l'ont distraite et notre berger a pu s'enfuir. D'après lui, c'était un loup qui marchait comme un homme. Ensuite, il y a cette femme qui accompagnait un joueur. Celui-ci s'est fait prendre à tricher au surveille-moi. On leur a donné l'ordre de circuler et enjoint de quitter la ville avant le crépuscule, sous peine de recevoir le fouet. Ils se dirigeaient vers le village proche des mines de sel lorsqu'on les a attaqués. L'homme s'est défendu. Du coup, la femme a eu le temps de se mettre à l'abri. Elle s'est cachée dans les rochers jusqu'à ce que la chose soit partie. D'après elle, c'était un lion.
Qui s'était né debout ?
Elle ne s'est pas attardée pour le voir. Pour finir, nous avons deux cow-boys. Ils bivouaquaient au bord de la rivière, à proximité de deux jeunes mariés manis dans leur retraite. Mais nos deux cow-boys ne s'en sont rendus compte qu'en entendant leurs hurlements. Alors qu'ils chevauchaient vers eux, ils ont vu la chose s'éloigner, avec dans sa gueule un mollet de la femme. Ce n'était pas un homme, mais ils ont juré sous serment que cette chose marchait sur ses deux jambes.
Jamy se pencha de côté pour cracher par terre. Impossible.
Pas en croire Vanet. Il dit que ça s'est déjà vu, mais il y a bien des années de cela. Il suppose que c'est une mutation qui s'est considérablement éloignée du bon aloi.
Et aucun de ces témoins n'a vu le même animal ?
Si fait. Pour les cow-boys, ça ressemblait à un tigre, à cause des rayures.
Des lions et des tigres errant comme des animaux de cirque. Et en plein désert. « Tu es sûr qu'on ne s'est pas moqué de nous ?»«
Je n'étais pas assez mûr pour être sûr de quoi que ce soit, mais je savais que la situation était trop grave pour qu'on envoie deux jeunes pistoleros jusqu'à Debaria à seule fin de leur faire une farce. Sans compter que nul n'aurait osé qualifier Stephen Deschaine de farceur. »« Je te répète ce que m'a dit Vanet, Jamy. » Les deux cow-boys qui ont ramené sur leurs travois les restes de ces malheureux manis n'avaient jamais vu un tigre de leur vie. Mais la description qu'ils ont donnée de la créature est la bonne. Ils ont même précisé qu'elle avait les yeux verts. Je sortis de ma poche les deux feuilles de papier que m'avait confié Vanet. Tu veux voir ?
Je ne suis pas un très bon lecteur. Tu le sais.
Si fait. Crois-moi sur parole, alors. Leur description est identique à l'illustration de cette vieille histoire du petit garçon pris dans un coup de givre.
De quelle histoire parles-tu ?
Celle de Tim Bravecoeur, la clé des vents. Enfin, peu importe. Ces cow-boys étaient peut-être ivres. Ça leur arrive souvent de se saouler en ville. Mais si leur témoignage est fiable, Vanet en conclut que notre garou peut prendre plusieurs formes.
23 morts, dis-tu. Aïe.
Une nouvelle bourrasque de vent nous apporta sa ration de poussière. Les chevaux renaclèrent et nous dûmes relever nos foulards pour nous protéger le nez et la bouche.
Fait foutrement chaud, commenta Jamy, et cette satanée poussière.
Puis, comme s'il se rendait compte qu'il était trop bavard, il tomba dans le silence. Cela me convenait car j'avais grand besoin de réfléchir. Un peu moins d'une heure plus tard, nous arrivions au sommet d'une colline depuis laquelle on découvrait une hacienda d'un blanc étincelant. Elle était aussi vaste qu'un domaine baronial. On devinait derrière elle un immense jardin vert et ce qui ressemblait à un vignoble. J'en eus l'eau à la bouche rien qu'en le voyant. La dernière fois que j'avais mangé du raisin, je n'avais pas encore de poils sous les bras. Les murs de l'hacienda étaient hauts et festonnés de sinistres tessons de verre, mais le portail en bois était grand ouvert, comme pour nous inviter à entrer. Sur le seuil, assise sur une sorte de trône, se trouvait une femme vêtue d'une robe de mousseline blanche et coiffée d'une capuche de soie blanche qui lui faisait comme des ailes au-dessus de la tête. Comme nous nous approchions, je vis que ce trône était en bois de fer. Aucun autre type de bois n'aurait pu supporter le poids de cette femme, la plus massive que j'aie jamais vue. Une géante qui aurait fait une compagne idéale pour David Quick, le prince hors-la-loi de la légende. Sur son giron reposait un ouvrage conséquent. Peut-être tricotait-elle une couverture. Mais ses formes étaient si plantureuses, ses seins si opulents, de quoi protéger deux bébés du soleil, qu'on l'aurait cru affairée à recoudre un mouchoir. Elle nous aperçut, posa son ouvrage et se leva. Elle mesurait bien 6 pieds et demi, peut-être davantage. Le vent était un peu plus calme par ici, mais il faisait claquer sa robe sur ses cuisses. Le bruit était pareil à celui d'un voilier filant au vent. Je me rappelais les propos du mécano.
« Elle mange les hommes !»
Mais lorsqu'elle porta le poing à son large front et de l'autre main souleva l'ourlet de sa robe pour esquisser une révérence, je ne pus m'empêcher de tirer les rênes.
« Ah, el pistolero !»
lança cette exceptionnelle représentante du sexe féminin, d'une voix modulée proche du baryton.
« Au nom de sérénité et des femmes qui y demeurent, je vous salue. Que vos jours soient longs sur cette terre. »
Nous lui avons rendu son salut en gestes comme en paroles.
« Venez-vous du monde de l'intérieur ? Je le pense car vos vêtements sont moins crasseux que ceux des gens d'ici. Mais ils se saliront vite si vous restez plus d'une journée. »
Et elle éclata de rire. On aurait dit un petit coup de tonnerre.
« Oui, » répondis-je.
De toute évidence, Jamy ne dirait plus un mot. D'ordinaire, plutôt taciturne, il était réduit au silence par l'étonnement. L'ombre de la femme se dressait sur le mur chaulé derrière elle, aussi vaste que l'or perse.
« Venez-vous pour le garou ?»«
Oui, » répétai-je. « Avez-vous vu cet homme ou en avez-vous seulement ouï dire ?»«
Dans ce dernier cas, nous ne nous attarderons pas et
ce n'est pas un homme, mon garçon. Ne va pas penser cela. »
Je la fixais sans rien dire. Elle était presque assez grande pour me regarder dans les yeux alors que ma monture, Young Joe, était un cheval de belle taille.
« C'est une chose. » reprit-elle. Un monstre issu des failles profondes, aussi sûr que vous servez l'aile des Leblanc tous les deux. Peut-être était-ce naguère un homme, mais ce n'en est plus un. Oui, j'ai vu cette chose, et j'ai vu de quoi elle est capable. Puisque vous vous êtes arrêté ici, ne bougez plus, et vous le verrez bientôt.
Sans attendre de réponse, elle franchit le seuil. Dans sa robe de mousseline, elle évoquait un sloop avançant contre le vent. Je me tournai vers Jamy. Il haussa les épaules et hocha la tête. C'était pour cela que nous étions venus, après tout, et si le mécano devait attendre un peu avant de remettre Titeuf sur les rails, eh bien qu'il en soit ainsi.
« Hélène !»
rugit la femme. On aurait juré qu'elle tenait un mégaphone.
« Clémy, Brianna, apportez à manger de la viande, du pain et de la bière. La blonde, pas la brune. Sortez une table et surtout, n'oubliez pas la nappe. Envoyez-moi Fortuna sans tarder. Allons, dépêchez-vous !»
Une fois qu'elle eut donné ses ordres, elle revint vers nous, levant délicatement l'ourlet de sa robe pour le protéger de la poussière alcaline que soulevaient les lourdes bottes noires moulant ses énormes pieds. Dame Sai, nous vous remercions de votre hospitalité, mais nous devons vraiment manger.
Voilà ce que vous devez faire. Nous allons dresser la table au bord de la route, ainsi votre digestion n'en sera pas affectée. Car je connais les histoires qu'on raconte sur nous à Gilead. Ça oui, nous les connaissons bien. Tous les hommes racontent les mêmes histoires quand ils voient des femmes qui osent vivre par elles-mêmes. J'intuite. Cela leur fait douter de la valeur de leur trick.
On ne nous a rien raconté de... Elle s'esclaffa et sa poitrine ondula comme la mer.
Voilà qui est fort poli, jeune pistolero, si fait, et fort usé aussi, mais il y a belle lurette qu'on ne me la fait plus. Nous n'allons pas vous manger.
Je vis luire ses yeux noirs, aussi noirs que ses bottes.
Quoique vous soyez bien appétissants tous les deux, je suis Everline de Sérénité. La mère supérieure par la grâce de Dieu et de l'homme Jésus.
Je suis Rolante de Gilead, et voici Jamy de Gilead.
Ce dernier s'inclina sur sa selle. Elle nous gratifia d'une nouvelle révérence, baissant la tête de façon que les ailettes de sa capuche se referment un instant comme des voiles sur son visage.
Alors qu'elle se redressait, une petite femme apparut sur le seuil. Mais peut-être était-elle de taille normale, après tout. Peut-être ne paraissait-elle petite que comparée à Everline. Sa robe n'était pas de mousseline blanche, mais de coton gris et rêche. Elle avait croisé les bras sur sa poitrine menue et glissé les mains dans ses manches. Elle ne portait pas de capuche, mais on ne distinguait qu'une moitié de son visage. L'autre était dissimulée par une épaisse couche de bandage. Elle nous salua, puis se réfugia à l'ombre imposante de la mère supérieure.
« Lève la tête, Fortuna, et accueille ces jeunes gentlemen comme ils le méritent. »
Lorsque l'intéressé daigna lever la tête, je compris enfin son attitude. Les bandages ne parvenaient pas à masquer ses horribles plaies. La partie droite de son nez avait quasiment disparu. Il n'en subsistait plus qu'une béance rouge vif.
« Aïl,
chuchota-t-elle,
que vos jours soient longs sur cette terre. Et le double du compte pour vous,
dit Jamy. » Vu le pitoyable regard qu'elle lui adressa en réponse, je compris qu'elle ne souhaitait rien de la sorte.
« Raconte-leur ce qui s'est passé, » dit Everline. « À tout le moins ce que tu te rappelles, c'est-à-dire pas grand-chose, hélas. »« Le dois-je vraiment, mère ?»«
Oui, car ils sont ici pour régler la question. » Fortuna nous décocha un bref regard sceptique, puis se tourna vers Everline.
« En ont-ils le pouvoir ?» Ils ont l'air si jeunes.
Elle dut comprendre ce que cette remarque avait d'impoli, car sa joue visible se para de rouge. Voyant qu'elle vacillait sur ses jambes, Everline l'enveloppa d'un bras protecteur. De toute évidence, elle était grièvement blessée et loin d'être en voie de guérison. Le sang qui avait afflué à son visage aurait été plus utile dans d'autres parties de son corps. Si les chairs que dissimulaient ces bandages étaient certes dolentes, nul n'aurait su dire quelles autres plaies se cachaient sous son ample robe.
Peut-être n'ont-ils pas encore besoin de se raser plus d'une fois par semaine, mais ce sont des pistoleros, Forti. S'ils ne parviennent pas à débarrasser la ville de ce fléau, alors personne ne le pourra. Et puis ça te fera du bien. L'horreur est un ver qu'il faut extirper avant qu'il ne ponde des œufs. Parle.
Elle s'exécuta. Pendant ce temps, d'autres sœurs de sérénité firent leur apparition, deux d'entre elles portant une table sur tréteau et les autres de la nourriture et des boissons pour poser dessus. Vu le fumet qui se dégageait des viandes, c'était là une chair bien supérieure à celle que nous avions dévorée à bord de Titeuf, mais lorsque Fortuna eut achevé son bref et horrible récit, je n'avais plus faim du tout, et jamais pas davantage.